France Inter.
Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui. L'effort presque pour tous du budget 2026. François Bayrou présente l'addition aux Français cet après-midi. Après l'avoir détaillé au chef de l'État ce matin à l'Élysée, effort chiffré à 40 milliards, montant symbole. Totem même, tant il ne dit rien à certains économistes, vous allez l'entendre. L'actualité nous ramène à Marseille ce midi, une semaine après le feu destructeur, des habitants désemparés. En Syrie, la situation chaotique dans le sud, la ville de Souéda où Damas peine à mettre un terme aux violences. L'accord de Bougival, loin de faire consensus. En Nouvelle-Calédonie, les négociateurs y rentrent sous très haute protection. Et puis la mort de l'historien Jean-Pierre Azéma, grand spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il avait 87 ans.
Inter.
L'odeur de brûlé est toujours là et les pompiers aux aguets traquant la moindre souche un tant soit peu brûlante. Une semaine après le violent incendie qui a dévalé la colline des Pennes Mirabeau jusqu'au quartier de l'Estac au nord de Marseille, les flammes hantent encore les habitants. D'autant plus que le département repasse demain en vigilance rouge, risque de feu très élevé. Il n'y a pas une minute à perdre, c'est le reportage de Fabien Ledu.
Oui, Stéphane travaille d'arrache-pied depuis une semaine.
On est en train de débroussailler, enlever le plus possible.
Sa maison et 5 voitures ont brûlé. Il prépare le passage pour la dépanneuse.
Parce que les camions qui vont passer pour récupérer les voitures ne vont pas passer.
Comme lui, de nombreux sinistrés n'ont pas eu une minute à eux.
Bah écoutez, nettoyage, les experts, les assurances, envoyer les courriers. Les experts sont déjà passés pour les maisons les plus abîmées.
Armand, lui, a tout perdu et doit tout reconstruire.
Il est obligé de refaire papier, documents, passeport, carte d'identité, livret de famille, tout ça.
Sa maison a brûlé presque entièrement. Le plus urgent désormais, c'est de la démolir.
Les murs sont lézardés complètement et ça menace de s'effondrer. Dedans, c'est tout effondré. Et les murs porteurs menacent de s'effondrer maintenant.
Dans ce quartier, certaines maisons sont désertes depuis une semaine. Avec la crainte des pillages, les habitants comme Eric ont dû s'organiser.
Ça rôde et ça vole dans les maisons. Donc on s'est reliés pour faire des contrôles. Et chaque matin, on se dit comment on va retrouver la maison.
Face à la détresse des sinistrés, le centre social recueille les dons des riverains.
Je suis allée au centre social voir ce dont ils avaient besoin. Ils ont besoin de vêtements pour adultes, hommes, femmes, plutôt grande taille, du linge de maison, serviette éponge. Je vais faire quelques courses pour des produits d'hygiène.
Et dans ce vallon où tout le monde se connaît, la solidarité vient donner un peu de réconfort aux sinistrés.
Il y a un monsieur là, il a perdu sa maison. En plus, je crois qu'il n'est même pas assuré parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, on l'héberge sur le local associatif ici au Marinier.
Mes chers voisins, on est en train de faire une collecte parce que la maison est totalement brûlée. Tout le quartier s'est mis, ça donnera un petit coup de pouce.
Selon les habitants, 8 maisons ont totalement été détruites dans le quartier.
Fabien
17 autres ont été touchées.
Fabien Ledu dans le quartier de l'Estac pour ici Provence et une réunion est prévue ce soir entre les habitants et la municipalité alors que le département, je le disais, elle repasse en vigilance rouge demain en raison du risque de feux de forêt comme le Var et le Vaucluse avec un mistral qui pourrait souffler jusqu'à 70 km/h. Une quinzaine de massifs forestiers d'ores et déjà interdits d'accès aujourd'hui. Et ce n'est pas le bon jour pour demander des moyens supplémentaires. François Bayrou dévoile les contours de son projet de budget pour 2026 cet après-midi. Il les a présentés ce matin à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron en fin de matinée. Et le Premier ministre prépare les esprits depuis des semaines, se disant au pied du mur de la dette. L'heure est à l'effort. L'exécutif cherche 40 milliards d'euros, voire 45. Un chiffrage plus politique qu'économique, puisqu'il n'est pas établi selon la formule classique par rapport au budget de l'année passée. Anne-Laure Delatte est directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions de finances et à deux doigts d'en perdre son latin.
En fait, les 40 milliards ne correspondent pas à ce que a affiché, annoncé la France à la Commission européenne, qui annonce plutôt un ajustement budgétaire de 0,9% du PIB. C'est 27 milliards. La seule explication qu'on peut imaginer, c'est une différence à une tendance structurelle. En gros, l'idée, ce serait de se dire, si on continuait sur cette pente de dépenses, en gros, on a besoin de dépenser un peu plus que la croissance du PIB. Alors, on serait à tel niveau de dépenses, c'est ce qu'on promet de dépenser dans le plan d'ajustement. La différence est de 40 milliards. C'est vraiment une tentative d'explication parce que le gouvernement ne donne pas d'explication sur ces 40 milliards. Et je vous avoue que ça pose un problème, en fait, dans le débat public. C'est-à-dire qu'on les a jamais trouvés, ces 40 milliards. Si vous regardez le budget 2025, on a exactement la même dépense en 2025 qu'en 2024. Et on n'a pas du tout fait 40 milliards d'économies.
Anne-Laure Delatte, directrice de recherche au CNRS, avec Luc Chemla. 40 milliards, un chiffre pour dramatiser l'enjeu, mais le secret est bien gardé sur les arbitrages finaux de Matignon. Ce que l'on connaît ce midi, ce sont les lignes rouges des partenaires sociaux, notamment. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Des syndicats d'abord, inquiets d'un gel redouté des prestations sociales.
L'année blanche, effectivement, mesure la plus souvent évoquée, qui consiste à geler toutes les dépenses publiques au niveau de l'année précédente, et notamment donc l'ensemble des prestations sociales. Cette année blanche est qualifiée par la CGT d'année noire pour les travailleuses et les travailleurs dont le pouvoir d'achat serait attaqué, même si l'inflation est désormais contenue. Touchée aux pensions de tous les retraités, Force ouvrière s'y oppose, proposant de désindexer les pensions de l'inflation, mais uniquement pour les retraités qui touchent plus. Quant à durcir encore les règles de l'assurance chômage, alors que la dernière réforme signée en décembre n'est pas encore entrée dans la loi, les syndicats s'y opposent fermement, tout comme ils dénoncent la possible suppression d'un jour férié. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT.
Ça veut dire travailler plus pour gagner moins, c'est nous demander de travailler gratuitement. Moi, la question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va parler des dividendes ? On donne plus d'argent aux actionnaires que d'argent pour les investissements d'avenir. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, aller prendre les richesses là où elles sont, au lieu de vouloir toujours faire les poches des salariés.
Sophie Binet qui était ce matin sur France 2. Et justement, Agnès, du côté des entreprises, quelles sont les craintes ?
La suppression de certaines niches fiscales. Un récent rapport du Sénat chiffre à 88 milliards ces niches qui bénéficient aux entreprises. La plus importante est le crédit impôt recherche qui coûte près de 8 milliards d'euros à l'État et que la Commission européenne qualifie de coûteux et peu efficace. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, rejette de son côté toute nouvelle contribution en 2026, estimant à 13 milliards les efforts consentis en 2025. MEDEF et ses PME, grandes et petites entreprises, qui pointent du doigt les économies à faire sur les arrêts maladie, dont le nombre a fortement augmenté ces dernières années. Enfin, patronat et syndicats qui gèrent ensemble les complémentaires santé paritaires dénoncent de possibles nouvelles taxes et la prise en charge de nouvelles dépenses pour renflouer les caisses de l'assurance maladie.
Ligne rouge des partenaires sociaux avec vous Agnès Soubiran, sans parler des oppositions politiques. La possibilité d'une année blanche fait consensus contre elle, du RN à la France insoumise. LFI qui annonce déjà son intention de déposer une nouvelle motion de censure à la rentrée. Le chantier budgétaire qui a aussi comme toile de fond les engagements internationaux pris par la France. Les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies à horizon 2030 notamment, à la fois la lutte contre le changement climatique et l'accès à la santé, à une éducation de qualité pour tous. L'urgence se mesure au niveau mondial, dit l'ONU. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Et le rythme actuel des efforts est largement insuffisant pour atteindre les objectifs.
En effet, si les fameux ODD ont amélioré la vie de millions de personnes dans le monde depuis 10 ans, il reste beaucoup à faire à 5 ans de l'échéance. Seuls 35% sont en bonne voie ou affichent des progrès modérés, note le rapport annuel. C'est le cas pour la mortalité infantile par exemple, l'accès à l'électricité, elle concerne désormais plus de 9 humains sur 10, à l'eau potable ou l'éradication d'au moins une maladie tropicale. 54 pays y sont parvenus l'an passé. En revanche, l'extrême pauvreté est toujours là. Vivre avec moins de 3 dollars par jour concerne encore une personne sur 10 dans le monde aujourd'hui. La faim persiste aussi pour un humain sur 11 et l'accès à l'éducation est encore très insuffisant, note le rapport. Plusieurs objectifs de développement durable sont en régression. Le chômage a augmenté, la santé des océans a empiré et dans les villes, eh bien, le réchauffement climatique rend la qualité de vie dégradée.
Et dans ce tableau général plutôt sombre, Sophie, il faut quand même dire que la France s'en sort pas trop mal.
Effectivement, comme la plupart des pays riches, nous bénéficions d'un système social performant et les indicateurs sont au vert pour l'accès à l'éducation, généralisée et gratuite chez nous, les soins primaires de santé comme les vaccins par exemple. En France, 100% des habitants selon l'ONU ont accès à l'eau potable, à l'énergie. Notre pays a progressé sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'égalité des genres également. Pour l'ONU, si tous les ODD ne sont pas atteints en 2030, certains objectifs restent atteignables avec des efforts soutenus de financement et d'entraide entre les nations.
Mais même en France, merci Sophie Bécherel, l'accès à l'eau potable peut être une question. On le voit en ce moment dans ces communes, 12 dans les Ardennes, 4 dans la Meuse, où il est désormais interdit de boire de l'eau du robinet, contaminée au PFAS, les polluants éternels. Les habitants, aussi démunis que les élus, se sentent abandonnés. Ils partagent leurs interrogations et commencent à s'organiser en petits groupes sur les réseaux sociaux, Sophie Allemand.
Je m'interroge sur les effets que peut avoir avoir de l'eau contaminée sur mon chat. Les PFAS sont-ils présents dans les nappes phréatiques? On ne peut pas boire l'eau, mais faire bouillir des pâtes, oui, c'est absurde. Voici le genre de questions que l'on peut lire sur ce groupe. C'est pour cela que Manuel Delgoff, habitant de Juvigny-sur-Loison dans la Meuse, l'a créé le lundi 7 juillet, juste après la révélation, cette eau de PFAS très importante dans l'eau.
On échange sur ce qui est arrivé et sur les choses que l'on va pouvoir faire. Forcément, il y a beaucoup de gens qui ont envie de trouver des coupables, qui voudraient se lancer au plus tôt dans des procès. Moi, mon approche est plutôt d'essayer de trouver avant tout comment faire pour vivre avec les PFAS qui sont dans notre eau. On ne peut rien y faire, c'est comme ça.
L'origine de la pollution étant visiblement la même, les épandages de boue d'une papeterie dans la Meuse, Ardennais et Meusiens doivent mutualiser les forces, selon lui.
Même si politiquement on ne dépend pas des mêmes préfectures, on a besoin de s'unir pour que l'on nous prenne un peu au sérieux. Il n'y a que l'union qui va nous permettre de pouvoir poser des questions suffisamment fortes pour espérer obtenir une réponse un jour ou l'autre.
Manuel Delgoff espère que les préfectures vont organiser des recherches sur l'état des terres, des analyses sanguines des habitants et proposer des solutions autres que l'eau en bouteille.
Sophie Allemand, ici Champagne. Anticipez vos courses de fourniture pour la rentrée. L'association de consommateurs UFC Que Choisir anticipe une hausse des prix de 2% cette année et le pic est toujours en septembre. C'est moins cher en ce moment. L'épreuve du terrain après l'accord du week-end sur la Nouvelle-Calédonie, le plus dur reste sans doute à faire pour les délégations indépendantistes et non-indépendantistes qui reviennent progressivement dans les îles, sorties du huis clos des négociations de 10 jours dans les Yvelines. Comment seront-elles accueillies par les deux camps sur place et leurs bases parfois radicales? On redoute des tensions. Bonjour Maxence Lambrecq. Tellement que tous sont sous protection.
Oui, en effet, signer un accord et risquer de mourir. L'histoire se répète. Emmanuel Djibaou avait 13 ans quand son père, Jean-Marie, a été assassiné par un extrémiste kanak qui lui reprochait les accords de Matignon, la poignée de main en 88 avec Jacques Lafleur. Le voici à son tour, menacé de mort par la frange la plus radicale. Ceux qui voient dans cet accord de Bougival une trahison, un abandon. Le service de protection de la police nationale, le SDLP, est donc déployé dès aujourd'hui à Nouméa pour assurer la sécurité des deux camps. Côté loyaliste, Nicolas Metzdorf et Sonia Bakès étaient déjà menacés. Ils seront lourdement protégés, confie-t-on au ministère des Outre-mer, plus que certains ministres et leurs familles y compris. On ne se rend pas bien compte ici du risque personnel qu'ils ont pris en signant, raconte un participant des négociations. Bien sûr, avec ce compromis, ils peuvent perdre les prochaines élections, mais ils peuvent surtout y perdre la vie. C'est le scénario du pire que Manuel Valls redoute. Ce projet d'accord ne serait que de l'histoire ancienne. Alors, le nombre d'armes en circulation sur l'archipel demeure exceptionnel. 2600 membres des forces de l'ordre restent déployés en Nouvelle-Calédonie.
Merci beaucoup Maxence. Lambrecq, l'actualité à l'étranger. Entre menaces et promesses, Moscou réagit à l'ultimatum de Donald Trump. 50 jours pour négocier la paix avec l'Ukraine. Le Kremlin dit à la fois être prêt à discuter et avoir besoin de temps. Et puis en Syrie, c'est vers la ville de Souaïda, majorité druze dans le sud, que le regard se porte ce midi. Après plusieurs jours de violences communautaires et une centaine de morts, les forces de Damas tentent de reprendre le contrôle de la situation. Elles sont entrées dans la ville ce matin, un couvre-feu décrété. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
Vous êtes notre correspondante dans la région. Marie-Pierre, la situation est encore très confuse ce midi.
Oui, alors en fait, les forces de sécurité syriennes ont campé toute la nuit aux abords de la ville de Souaïda, après avoir pris plusieurs villages hier. Des négociations se sont engagées avec les notables druzes, négociations compliquées, car les différentes factions druzes sont divisées, certaines très hostiles aux forces de Damas. Mais c'est le courant partisan du dialogue avec les nouvelles autorités qui semble s'être imposé, puisque d'un accord de cessez-le-feu total a été annoncé ce matin, et qu'il a permis, vous le disiez, l'entrée des troupes syriennes dans la ville. Peu après, des combats ont éclaté, mais localisés, et un calme précaire semble revenu. L'enjeu, il faut le dire, est élevé pour le pouvoir syrien, qui tente d'imposer l'autorité centrale de Damas dans ce pays fracturé. Le désarmement des différentes milices est un point clé, mais pour compliquer encore la donne, l'aviation israélienne est de nouveau entrée dans la danse. Elle a bombardé les forces syriennes à Souaïda ce matin, l'État hébreu qui se pose en protecteur des druzes dans la région, et cette implication d'Israël que Damas Hamas accuse d'instrumentaliser la question druze pour étendre son influence en Syrie, eh bien cette implication est un nouveau défi pour les autorités.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud depuis la Turquie. Il était l'un des meilleurs spécialistes de la France sous la Seconde Guerre mondiale, du régime de Vichy et de la Résistance. Et son histoire de famille n'y était sans doute pas étrangère, fils d'un collaborateur. L'historien Jean-Pierre Azéma est mort hier à 87 ans. Son travail essentiel à travers ses livres, la biographie de Jean Moulin notamment, son rôle de conseil pour des séries à succès comme Un village français sur France 3, passeur d'histoire aussi, Jean-Pierre Azéma sur France Inter en 2014.
À l'aube du 6 juin, à Ouistreham, les Français qui habitaient encore ce port de la côte normande ont dû chercher ce qui les avait empêchés de dormir. La tempête s'était calmée, mais un bruit continu, de plus en plus puissant, un épouvantable boucan, boum 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 boum, paraissait venir de très gros navires qu'on devinait au large. Était-ce bien...
Voilà la série de Jean-Pierre Azéma diffusée sur France Inter en 2014 sur le débarquement. Jean-Pierre Azéma, qui avait 87 ans, ses travaux ont marqué plusieurs générations d'étudiants. Salut l'historien Éric Anceau aujourd'hui. Un jour pour souffler sur le Tour de France après la première étape de montagne hier. Premier jour de repos aujourd'hui après 10 jours de course. Alors à défaut de se faire une après-midi télévision aujourd'hui, voici un jeu 100% des paysans et non violent. Un jeu vidéo sorti en 2018 est désormais disponible sur mobile. Subnautica, c'est son nom, où le joueur explore des fonds marins plus ou moins hospitaliers. Olivier Bénis.
Dans Subnautica, vous incarnez Riley Robinson, dont le vaisseau spatial vient de s'écraser sur une planète presque uniquement océanique. Zero human life signs detected. Naufragé à bord de votre capsule de sauvetage flottante, vous pourrez compter sur un appareil permettant de fabriquer toutes sortes d'objets à partir des matériaux que vous récolterez lors de vos plongées, nourriture, équipement, véhicules sous-marins ou modules habitables, un concept qui rappelle évidemment Minecraft, une inspiration assumée par le créateur du jeu, Charlie Cleveland. En le développant, il souhaitait retransmettre la sensation d'être un explorateur qui ne sait jamais sur quoi il va tomber, le tout sans objectif tout tracé et surtout sans armes. Marqué par la tuerie de l'école Sandy Hook en 2012, il souhaitait que son jeu soit non violent. Ce qui n'empêche pas l'expérience d'être parfois stressante, car la faune des fonds marins, des créatures extraterrestres étonnantes et colorées, ne partage pas toujours votre pacifisme. Subnautica a convaincu plus de 5 millions de joueurs jusqu'ici, un score qui devrait encore augmenter avec cette nouvelle version mobile, en attendant une vraie suite qui doit arriver avant la fin de l'année.
Voilà, un peu de fraîcheur dans cette journée d'été, on fait le point sur le temps.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Où l'on peut dire bonjour Élodie Calac, que le ciel est changeant au nord, ensoleillé au sud.
Exactement. Ouais. Alors sur la moitié nord, nuages et belles éclaircies. Des nuages un peu plus nombreux quand même de la baie de Seine au Pas-de-Calais. Une averse n'est pas exclue près des frontières du nord. Plus de nuages aussi sur la pointe bretonne dans l'après-midi à l'approche d'une perturbation pour demain. Mmh. Le vent de sud-ouest souffle jusqu'à 60 km/h près des côtes de la Manche. En allant vers le sud, là le soleil l'emporte, une averse possible cet après-midi sur les Alpes, sous les nuages les plus dodus. Des nuages qui dominent encore du Pays Basque vers le sud de Midi-Pyrénées. En Méditerranée, du soleil et du vent, tramontane, mistral, vent d'ouest, du Var à la Corse jusqu'à 60 km à l'heure. Et des températures, alors globalement de saison, ça paraît un peu frais par rapport à ce qu'on a eu les jours précédents, mais 21 à 23 degrés attendus près de la Manche, souvent 24 à 30 ailleurs. Et il fait plus chaud, toujours sur le sud-est, avec 30 à 36 degrés. Demain, du soleil au sud, du vent en Méditerranée, plus de nuages au nord et un peu de pluie de la Normandie au Grand Est.
Merci beaucoup Élodie Calac, Météo France.